lundi 9 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Studio Kalungu. Nafis Adam Sirfo au micro. Au sommaire, le Niger et le Bénin vers une normalisation des relations. La question était au centre des échanges entre le ministre des Affaires étrangères du Niger et celui du Bénin lors du sommet de coopération sino-africain à Beijing ce week-end. À Birnin-Kwani, région de Tawa, 16 cas de choléra viennent d'être enregistrés par les responsables sanitaires dans deux centres du département. Le médecin-chef du district sanitaire nous en dit plus dans un instant. Le magazine Justice de ce lundi nous éclaire sur les sanctions prévues par la loi pour toute personne qui refuse de mettre en exécution une décision de justice. Bonsoir à tous et bienvenue le 6 septembre 2024 en marge du sommet du Forum de coopération sino-africain à Beijing en Chine. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a rencontré son homologue béninois pour discuter des relations bilatérales entre leurs pays. Lors de cet échange, ils ont salué les efforts de normalisation des relations sous l'impulsion de leurs chefs d'État respectifs ainsi que la préparation de la 12e session de la commission mixte de coopération Niger-Bénin dans la date sera prochainement fixée, rapporte l'agence nigérienne de presse. Un échange qui marque une avancée vers la réconciliation entre les deux pays après plus d'un an de tensions diplomatiques. À Birnin-Kwani, région de Tawa, des cas de choléra viennent d'être enregistrés par les responsables sanitaires de la dite localité. Il s'agit de 11 cas dans le CSI du village de Dosei ainsi que 5 cas dans le CSI du quartier de Mumwadata de la ville de Birnin-Kwani. Le médecin-chef du district sanitaire de Birnin-Kwani, Madame Nana Mariam Maman, fait la situation au micro de Asman Moussarzika.
Nous avons commencé à enregistrer des cas de malades atteints de la diarrhée et des vomissements depuis avant-hier à minuit. Les premiers, c'est au CSI de Dosei où nous avons eu deux cas. Entre-temps, le nombre de malades a augmenté. Actuellement, ils sont au nombre de 11. Ce matin, d'autres cas ont été enregistrés à Koné. À midi, ils sont au nombre de 5. Le manque d'hygiène est la principale cause de cette maladie, qui est transmise par des germes qui vivent dans les vomissements des personnes malades. Nous lançons un appel à la population pour plus de vigilance. Dès qu'une personne présente des symptômes, il faut la conduire au centre de santé le plus proche.
Cette année, l'ensemble du pays a enregistré une pluviométrie exceptionnelle. Dans la région de Maradi, les fortes précipitations enregistrées ont causé des inondations. Plusieurs personnes se sont retrouvées sans abri. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la santé des habitants de la ville. Et quelles sont les mesures à prendre pour éviter les maladies liées aux inondations? Écoutons Ousmane Yakouba, chef de la brigade régionale sanitaire de Maradi, interrogé par Omar Hama.
La destruction des conduites d'eau potable, l'effondrement des latrines, la pollution des habitats, la pullulation des vecteurs, en somme, toutes ces conditions qui sont capables en tout cas de créer une propagation des maladies au sein de nos populations. Notre entretien vise à informer la population du danger en tout cas qui est présent dans la ville et des dispositions à prendre pour éviter que ces dangers en tout cas créent des maladies au sein de la population. Les précautions d'urgence en tout cas que nous recommandons à la population, c'est le lavage des mains après avoir ramassé les débris des inondations, avant de manger, au sortir des toilettes, après avoir touché toute surface contaminante. Nous recommandons aussi à la population de faire un grand ménage, et des latrines surtout, des cuisines, des étables. Ce sont des endroits qui sont susceptibles de contenir plus de microbes potentiels au déclenchement des épidémies.
Et c'est ce lundi 9 septembre que la ville de Niamey va procéder dans la soirée à une campagne de démoustication de la capitale. Sekou Abdelaziz Mahmoudou, chef service hygiène et assainissement à la ville de Niamey, nous donne des précisions au micro de Hassan Nour Abdrahman.
En procédant bien sûr à cette campagne de démoustication dans la ville de Niamey, l'opération va concrètement débuter Inch'Allah, ce lundi, bien sûr, 9 septembre 2024, et au niveau de la ville de Niamey. À partir de 19h-20h, au moment où les équipes seront sur le terrain, c'est qu'ils puissent prendre toutes les dispositions de sécuriser les différents points d'alimentation, leurs ustensiles qu'ils utilisent pour bien sûr manger. La campagne durera, plaise à Dieu, 10 jours, jour pour jour, que ce soit de jour ou de nuit, que les équipes seront sur le terrain.
L'administrateur délégué de la commune urbaine de Birnin-Gaouré a animé le samedi 7 septembre un point de presse sur la situation née des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours au niveau de son entité administrative. Devant la presse, Bachir Garba a rappelé la situation des infrastructures routières et dressé le bilan des inondations. On l'écoute sur des propos recueillis par Djaouga Mahamadou.
La RN1, qui est la voie principale qui quitte la capitale Niamey pour desservir l'est du pays. Une première fois, l'eau est montée sur cette route. Les mesures idoines ont été prises d'abord au niveau basique, c'est-à-dire au niveau de la commune, après de façon conjointe avec le niveau départemental, régional et jusqu'à l'échelon supérieur qui est le niveau national. Une deuxième fois, cette situation était arrivée et elle a été encore gérée. Par rapport au bilan de ces inondations, sur la commune urbaine de Birnin-Gaouré, nous sommes dans un bassin. Par miracle et bonté de Dieu, cette année, ça va beaucoup mieux. Nous avons 3 ménages, soit un total de 27 personnes sinistrées. Cette situation, nous la mettons à jour au fur et à mesure. Donc, d'un point de vue matériel, 3 maisons de location qui sont effondrées.
L'actualité est toujours en région. Le comité communal de paix de la commune urbaine de Diffa était en tournée dans les confins de cette entité. Objectif, s'entretenir avec les agropasteurs sur le respect des lois régissant les ressources à partager. Abaganawe Kilgana, membre du comité, explique la dynamique des conflits liés aux couloirs de passage et des champs pièges. Il est au micro de Mani Moussa.
Avant, il y avait des espaces qu'on laissait, qu'on appelle les couloirs de passage. Et il y a aussi une certaine distance à respecter. Et c'est ce qui permet aux éleveurs de faire passer les animaux sans souci. Mais maintenant, les agriculteurs sèment même dans ces couloirs de passage. Et c'est donc aux éleveurs de signaler cela aux autorités, qu'on appelle la police rurale. Donc ça peut être le maire, le préfet ou le gouverneur. C'est à eux de faire en sorte que l'agriculteur retire ses cultures de ces endroits. Parce que c'est cela même la source des conflits. Et même au niveau des cours d'eau, il y a une certaine distance à respecter. Et si les éleveurs laissent leurs animaux dépasser les normes, forcément, les dégâts s'en suivront.
La mine aurifière de la commune de Dain-Issa n'est pas concernée par la suspension de l'octroi des titres miniers comme annoncé par l'État. Selon le directeur régional des mines, Nuh Moussa, le cas de Dain-Issa est particulier, même si l'État a déjà donné un permis minier à la société Roua pour une exploitation semi-mécanisée. Il explique au micro de Mohamed Maman.
Tous les secteurs sont concernés par cette note. Mais néanmoins, le cas de Dain-Issa, vous savez, c'est un site qui a été fermé. C'est tout le sud Maradi qui a été fermé par une décision d'un conseil des ministres du 6 janvier 2022 suite aux effondrements ayant occasionné des morts d'hommes. Donc, il y a eu cette décision qui a fermé le site pour pouvoir regarder, prendre des dispositions nécessaires pour éviter ces désagréments que l'État nigérien a connus. Donc, c'est par rapport à ça, le cas de Dain-Issa est une particularité. L'État est actuellement en train de voir quels sont les voies et moyens à prendre pour pouvoir ouvrir ces sites, donner une partie conformément à l'article 66 de la nouvelle loi minière et dédier un site aux EMAP, ce qu'on appelle exploitation minière à petite échelle, à ces orpailleurs-là. Donc, ils doivent attendre pour le moment.
Parlons sport à présent. Après une semaine de compétition, les championnats nationaux féminins U17 et U20 se sont achevés ce samedi 7 septembre 2024 au Centre technique national de la Fenifoot. Dans les deux catégories, ce sont les joueuses de la capitale qui ont remporté les trophées. Madame Issa Kaïssa Ibra, directrice générale des sports au ministère des Sports, est au micro de Salamatou Kadri.
Nous avons participé à de très belles finales, ce qui nous fait dire que les talents ne sont pas à Niamey seulement. Nous avons vu les finales Niamey-Agadez. Les filles d'Agadez ont très bien joué. Et si je fais une comparaison par rapport au championnat de l'année passée, je dirais que le niveau technique a beaucoup changé. On n'a pas à se décourager. D'ici peu de temps, nous aurons des équipes très représentatives aux compétitions internationales. Mais l'objectif, c'est de prouver à la face du monde que autant que les garçons jouent, les filles aussi peuvent jouer au football. Donc moi, j'encourage la commission de développement du football féminin et je demande demande aux autres fédérations aussi donc de permettre aux filles de s'exprimer autant que les garçons. Les parents sont réticents. Nous avons les préjugés sociaux qui sont là, qui nous freinent. Donc, moi, l'appel que je voulais lancer aux parents, c'est pour qu'ils se rendent compte que la pratique du sport ou des activités physiques est très bonne pour la santé. Donc, ils n'ont qu'à accompagner les enfants à pratiquer le sport et les activités physiques.
Et en bref, l'équipe nationale du Niger de football, le MENA, affronte les Black Stars du Ghana cet après-midi au Maroc. C'est dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Rappelons que lors de leur première sortie, les joueurs du MENA ont perdu contre le Soudan du Sud sur le score d'un but à zéro. Le magazine de ce journal, après une décision de justice, le citoyen qui refuse de s'exécuter ou l'autorité de justice qui refuse de mettre en exécution cette décision définitive est passible de peine d'amende et d'emprisonnement. Cette attitude est appelée refus de décision de justice. Pour nous édifier sur le sujet, Anissé Karim s'est entretenu avec le substitut du procureur près du tribunal de grande instance d'Agadez, Omar Bilal Gagari.
La décision de justice, quand elle est exécutoire, doit être respectée par tout justiciable et l'autorité en charge doit par tous les moyens faire exécuter cette décision, explique Omarou Gajeri Bilal.
D'une décision de justice vise à assurer et à protéger l'exécution des décisions de justice devenues définitives ou exécutoires.
La loi punit toute personne qui refuse d'exécuter une décision de justice et la sanction est plus grave pour ceux qui sont censés faire exécuter cette décision, affirme le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agadez.
C'est une infraction susceptible d'être commise par toute personne qui aura résisté ou tenté de résister à l'exécution d'une décision de justice. Ça, c'est le principe. Mais exceptionnellement, sont visés pour la commission de cette infraction les dépositaires de l'autorité publique qui sont régulièrement requis à cet effet, c'est-à-dire à l'effet d'exécuter une décision de justice devenue définitive ou exécutoire et qui s'abstiennent de répondre ou de faire droit à la réquisition.
Omarou Gajeri Bilal nous explique comment se fait le constat qu'un délit de refus d'exécution d'une décision de justice a été commis.
Ils sont au nombre de trois. Donc, l'élément légal réside dans l'article 196.1 qui incrimine et réprime la résistance à l'exécution d'une décision de justice. L'élément matériel réside dans le fait de résister sciemment à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive exécutoire. Et l'élément intentionnel réside dans le fait de résister ou même de tenter de résister en sachant que la décision remplit les critères que nous avons évoqués.
Comme toute infraction, celle en lien avec le refus de décision de justice est aussi punissable dans le code pénal d'emprisonnement et d'amende, conclut Omarou Gajeri Bilal.
L'article 196.1 prévoit une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs. Les peines peuvent être aggravées comme ça est le cas à l'article 196.1-1 et 2. Il y a aussi des peines aggravées prévues aux articles 196.2 qui portent la peine de 2 à 5 ans et l'amende de 20 000 à 200 000 francs. Il en est de même toujours dans le sens de l'aggravation et surtout de l'incrimination particulière s'agissant des dépositaires de l'autorité publique, vous verrez que là aussi l'article 196.3 aggrave la sanction.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes avec les journaux en langue nationale et le forum de Studio Kalangu.
Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu au rythme du Niger.